Chapitre 26. La réponse de l'entraîneur, à qui Roger avait télégraphié pour la maison de Choisy-au-Bac, fut que cette maison était à louer et pour le moment inoccupée. Ils partirent aussitôt. Cette maison était un ancien prieuré, se trouvant entre Choisy et Francport, dans une situation assez pittoresque, adossée à la forêt de Lègue et ayant en face la forêt de Compiègne, dont elle n'était séparée que par le lit de l'Aisne. Avec ses murs revêtus de lierre et son toit moussu, elle avait belle apparence. En tout cas, c'était bien l'endroit solitaire et caché que Raphaël avait désiré. Point d'habitation aux environs, les deux forêts et la rivière, partout des arbres. Cependant, lorsqu'il l'eut revisité, Raphaël, très franchement, déclara qu'on ne pouvait pas la louer. D'abord, elle n'était pas meublée, et acheter des meubles serait une dépense qu'elle n'autorisait pas.
Des meubles de campagne.
Les meubles de campagne coûtent cher et la dépense s'élève d'autant plus qu'il y a un grand nombre de pièces immenses à meubler. Et puis, autre inconvénient sérieux, il n'y a pas de calorifère dans cette maison. Pour l'échauffer, il faudrait brûler plusieurs stères de bois par jour et le bois coûte très cher. Tu verras comme j'entends l'économie.
Ce qu'il vit pour le moment, c'est que la maison ne lui plaisait point. Et il n'insista pas, se contentant des raisons qu'elle lui donnait. Ils revinrent à Paris très gaiement et en gardant de cette excursion le meilleur souvenir. Qu'ils n'eussent point trouvé ce qu'ils voulaient, cela avait peu d'importance. Ils chercheraient ailleurs, chacun de son côté ou ensemble. Il n'y avait pas une urgence immédiate, puisqu'en attendant, ils pouvaient se voir soit rue Aubert, soit rue Drouot. Il est vrai que l'appartement qu'elle occupait rue Drouot et qu'elle louait tout meublé était peu confortable. Mais pour quelques jours, elle espérait que son petit duc voudrait bien être indulgent. Le lendemain, comme Roger arrivait rue Drouot, il remarqua qu'elle le recevait d'une façon embarrassée, comme si, ayant été surprise, elle avait quelque chose à lui cacher. Devant un petit bureau, une chaise était à demi poussée, et sur le bureau lui-même se trouvait un buvard ouvert. L'encrier était débouché, la plume était pleine d'encre liquide. Évidemment, elle venait d'écrire, cela sautait aux yeux. Pourquoi s'en cachait-elle? Il ne le lui demanda point, mais il la regarda, et alors elle détourna les yeux avec confusion, puis presque aussitôt, elle revint à lui franchement.
« Tu ne veux pas me demander pourquoi je me cache de toi ? » dit-elle. « Eh bien, tu as tort, c'est trop d'indulgence. Tu n'es pas de ceux qu'on peut tromper. J'ai suivi tes regards inquiets, ils ont vu la plume pleine d'encre, et alors tu as compris que j'écrivais quand tu as sonné, que j'ai été surprise et que j'aurais voulu que tu ne susses point que j'écrivais. Cela est vrai, je l'avoue. Oui, j'ai voulu te cacher que j'écrivais. Mais puisque tu l'as vu, je dois te dire maintenant à qui j'écrivais et ce que j'écrivais, car je ne veux pas que le doute effleure ton esprit, même pendant une minute. »
Disant cela, elle alla vivement au bureau et prit plusieurs feuilles de papier à lettres commencées.
« Tiens, dit-elle, lis. Il y en a plusieurs, car ce que j'ai à dire est si difficile que je m'y suis reprise 3 ou 4 fois. »
Il voulut repousser les feuilles de papier.
« Lis.
« Je vous suis bien obligé, cher monsieur, pour votre invitation, mais je ne puis l'accepter. Vous ne trouverez pas mauvais. » La lettre s'arrêtait sur ce mot.
« À qui cette lettre s'adresse ? » continua-t-elle. « À Poupardin. L'invitation que je refuse, celle de visiter avec lui, demain, à 3 heures, un appartement boulevard Malesherbes qu'il m'offre. »
Un geste de colère échappa à Roger. Vivement, elle lui prit la main qu'elle baisa.
« Pourquoi te fâcherais-tu » dit-elle. « Et contre qui ? Contre moi ? Je refuse. Cette lettre et les autres, qui ne sont que des brouillons, le prouvent. Contre Poupardin ? Il ne sait pas que je suis ta maîtresse. »
Elle prit Roger dans ses bras et le serra passionnément. Elle s'était si bien laissée entraîner par la lettre de Poupardin qu'elle en avait oublié d'annoncer à Roger que la maison qu'il cherchait était peut-être trouvée. C'était par son coiffeur qu'elle avait entendu parler de cette maison. Il était en même temps le coiffeur de la maîtresse d'Adrien Sébert, le directeur du Théâtre National, et par celle-ci, Il avait appris que Sébert voulait louer une maison qu'il venait de faire construire à Saint-Prix, dans la forêt de Montmorency. Cette maison était une merveille de confortable et d'élégance. Rien n'y manquait. Serre, écurie, remise. Sébert avait fait des folies et maintenant il était obligé de louer cette maison qu'il avait construite et meublée pour lui et qu'il n'avait habitée que pendant quelques mois. Ils partirent pour Saint-Prix. En chemin de fer, Raphaël insista sur les avantages qu'il y aurait à louer cette maison si elle leur convenait, bien entendu. Furieux d'avoir été repoussé, Poupardin allait chercher les raisons de son échec, pour lui assurément inexplicable, et il ne tarderait pas à découvrir la vérité, c'est-à-dire que son rival préféré et aimé était le duc de Naurouze. Alors que ne dirait-on pas? Que de cris, que de commentaires! Installés à Saint-Prix, ils échappaient aux recherches. Il fallait donc profiter de cette occasion, si réellement c'en était une, aussi bonne qu'on le disait. C'était tout au haut du village, dans des terrains retranchés de la forêt, que s'élevait cette maison, et si Sébert n'en avait pas fait une merveille, au moins en avait-il fait une curiosité. C'était en effet une construction dans laquelle on rencontrait tous les styles, le roman, l'ogival, la renaissance, l'italien, l'anglo-saxon. Le vestibule était mauresque, la salle à manger chinoise, le salon turc, l'escalier tourné dans une tour à mâchicoulis et à créneaux, dont les murs inférieurs étaient décorés d'armes et d'armures ébréchées, bosselés ou pourfendus par un long et glorieux service dans plusieurs drames du Moyen-Âge. Ces souvenirs de théâtre ne se montraient pas seulement dans l'intérieur de la maison. Il s'affirmait d'une façon encore bien plus originale dans le jardin. Après avoir joué quelques drames, Sébert s'était exclusivement consacré à la féerie. Il n'avait plus voulu que des trucs, des changements à vue, des apothéoses, de la lumière électrique. Cela était devenu chez lui une passion, une manie qu'il avait portée dans tout, si violente et si absorbante qu'ayant à faire la décoration de son jardin, il avait dédaigné les arbres, les arbustes, les plantes et les fleurs. Les arbres, ceux de la forêt, il les avait rasés. Les arbustes et les fleurs, il ne les avait point plantés. Mais traçant trois allées qui partaient du perron de la maison comme les branches d'un éventail et allaient en s'écartant, il avait fait dresser à l'extrémité de ces trois allées, se détachant sur la verdure sombre de quelques sapins, des statues de femmes en carton-pierre, groupées et pyramidant de façon à former des apothéoses, comme celles avec lesquelles il terminait les féeries de son théâtre. Raphaël trouvait tout charmant. Le vestibule mauresque, la salle à manger chinoise, le salon turc, même les apothéoses qu'elle déclara très originales. Il n'y avait donc plus qu'à passer le bail, ce qui fut fait le jour même en l'étude du notaire de Montlignon, où fut dressé un acte par lequel Mademoiselle Françoise Urpin, propriétaire, déclarait prendre à bail de M. Adrien Sébert, directeur de théâtre, une propriété sise à Saint-Prix, et ce pour une période de 3 années, moyennant la somme de 10 000 francs par an, payable un terme d'avance, ce qui avait eu lieu à l'instant même en billets de banque comptés et délivrés en présence du notaire sous-signé, dont quittance. Elle eût voulu entrer immédiatement en possession de sa maison, mais il y avait une chose qui lui répugnait. C'était d'avoir dans leur chambre, pour cette pièce seulement, un mobilier qui, à peu près neuf qu'il fût, avait déjà servi, et ce qui était plus grave encore, servit à des gens de théâtre, des comédiens, des comédiennes. Cette idée seule donnait des frissons de dégoût. Il fut donc convenu que Roger ferait meubler cette pièce par son tapissier, quelque chose de simple, très simple. Elle ne tenait pas au luxe, loin de là. Elle demandait seulement d'être la première à poser sa tête sur l'oreiller de son lit et d'être la première aussi à s'asseoir dans le fauteuil où elle rêverait au coin du feu. Plus tard, elle pourrait garder ses meubles qui, pour elle, seraient des reliques d'amour. Dès lors qu'il s'agissait de reliques, Roger ne pouvait pas prendre les premiers meubles venus. Il fallait choisir. Pour 35 000 francs, son tapissier, qui était un homme de goût, lui meubla du jour au lendemain une chambre charmante, tout à fait simple. Le meuble en bois d'amboine, l'étoffe en satin à vannes unie. Puis, comme le cabinet de toilette n'était plus en harmonie avec la chambre, il le meubla aussi de façon à ce qu'il y eût accord entre les deux pièces, et il y eut accord aussi, bien entendu, entre les deux mémoires, celui de la chambre et celui du cabinet de toilette. Quelle joie de sortir le lendemain matin dans la forêt, librement, la main dans la main, au milieu du silence, sans craindre les curieux. Il verrait comme elle marchait bien. Chaque jour, il ferait une longue promenade et, les uns après les autres, il parcourait tous les chemins de la forêt. La matinée était douce et les routes, séchées par un grand vent qui avait soufflé pendant les derniers jours, n'étaient point trop molles sous le pied. D'ailleurs, elles étaient presque partout recouvertes d'une épaisse couche de feuilles mortes qui leur faisait comme un tapis de couleur rousse. Cependant, Raphaël ne put pas aller aussi loin qu'elle se l'était promis, même en s'appuyant sur le bras de Roger. Alors elle se dépita, se fâcha contre elle-même. Quelle mauvaise marcheuse elle faisait, elle qui, dans sa jeunesse, était infatigable. Alors elle avait l'habitude des longues courses, tandis qu'en Russie, elle avait perdu cette habitude, ne sortant jamais à pied, mais toujours à cheval ou en voiture. Quel malheur d'être obligée de renoncer à ces promenades dont elle s'était à l'avance fait si grande joie. Deux jours après, en passant le matin dans son cabinet de toilette pour s'habiller, elle trouva, étalée sur un divan, une robe en drap à longue jupe. À côté était posé un petit chapeau rond en feutre et une cravache. « Qu'est-ce que cela signifie ? » demanda-t-elle. Au lieu de lui répondre, il la prit par la main et l'emmena à la fenêtre dont il souleva le rideau. En face de cette fenêtre, à une certaine distance, dans le jardin, se trouvaient les écuries. Deux chevaux étaient tenus en main par un groom, l'un scellé d'une selle d'homme, l'autre d'une selle de femme. Elle resta un moment hésitante, regardant les chevaux, regardant Roger. « Puisque tu ne peux pas marcher, dit-il, il nous faut des chevaux. J'ai écrit à mon marchand qui t'envoie cela. J'ai demandé aussi une voiture pour les jours où nous ne pourrons pas sortir à cheval, mais elle n'est pas arrivée. » Elle lui jeta les bras autour du cou. « Je devrais te gronder, dit-elle, car ce que tu fais là, c'est de la folie. Mais je suis trop heureuse, je te gronderai plus tard. » Il y avait 8 jours à peine qu'ils étaient installés dans leur maison, lorsqu'un matin, pendant qu'ils étaient à déjeuner, le jardinier demanda à leur parler. Sa figure, lorsqu'il entra, trahissait une émotion violente. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » demanda Raphaël, qui, seul, commandait dans la maison, sa maison. Il y avait qu'on venait d'apposer sur un des piliers de la grille d'entrée une affiche annonçant la vente, après saisie, du mobilier garnissant la maison. Ils pressèrent le jardinier de questions, mais ils n'en purent pas tirer grand-chose de précis. Ils savaient bien que M. Sébert devait beaucoup. Ils savaient bien qu'un huissier était venu saisir, avant l'arrivée de M. et de Mme, mais pour le reste, ils ne savaient rien ou ne voulaient rien dire. Laissant là le déjeuner, ils firent atteler et coururent chez le notaire de Montlignon, qui expliqua la situation. Sébert avait promis de donner des acomptes à son créancier. Il ne l'avait pas fait. La saisie allait avoir lieu, puis ensuite viendrait la vente de la maison. Sébert était perdu. Il avait lutté jusqu'au bout pour conserver cette maison qu'il aimait, qu'il avait ruinée. Maintenant, il fallait la vendre. « Et mon bail ? » dit Raphaël. « Vous aurez droit à une indemnité. » La belle affaire ! Ce qu'elle voulait, c'était la jouissance tranquille de la maison qu'elle avait louée. « Le meilleur moyen pour obtenir cette tranquillité, dit le notaire, le seul serait d'acheter la maison et le mobilier qui la garnit. Le tout a coûté plus de 400 000 francs. Mais, vu les circonstances, on l'aurait, je crois, pour 150 000. Ce serait une bonne affaire. » En revenant, Raphaël pleura tout à fait, non la maison elle-même, bien qu'elle lui tînt à cœur, mais son bonheur perdu, ses souvenirs, leurs amours. Ils avaient été si heureux là. Le seraient-ils ailleurs ? Malgré le chagrin dans lequel il la voyait, Roger la quitta pour aller à Paris, et ce fut 3 jours après seulement qu'elle eut l'explication de ce voyage par le notaire, qui vint lui faire signer l'acte d'acquisition de la maison, moyennant 150 000 francs.